s'occupe des enfants. Donc, on est vraiment reconnaissant de vous avoir. Merci mille fois. Ce matin, nous poursuivons la série d'été, comme ça a été déjà nommé, la série d'été qui s'appelle « Découvrir Jésus ». Et c'est à partir de l'Évangile de Jean. D'ailleurs, je vous encourage vraiment, profitez-en avec cette série pour lire, tout simplement, lire l'Évangile de Jean. C'est 21 chapitres, donc ça se lit très bien durant tout l'été, un chapitre par jour, par exemple. Ça se lit très bien et vous allez voir, vous allez pouvoir approfondir vraiment toute la série. Donc, je vous encourage à faire ça. Et vous allez remarquer que Jean relate plusieurs rencontres personnelles entre Jésus et différentes personnes, une à une, qu'on ne va pas retrouver trois autres évangiles. Et dans les prochaines semaines, nous allons découvrir Jésus. On va découvrir Jésus, mais à travers la façon dont il se révèle lui-même lors de ses rencontres, la façon aussi dont il agit, son attitude quand il est avec ces personnes-là. Nous allons découvrir Jésus à travers sa rencontre avec Nicodème. Soyez là la semaine prochaine avec Pasteur Julien. Nous allons aussi découvrir sa rencontre avec Pierre. Pierre, un disciple que j'apprécie particulièrement, tellement des belles choses à voir avec Pierre et d'autres encore. Mais ce matin, si vous avez votre Bible, suivez-moi au chapitre 4 de l'Évangile de Jean. Alors que Jésus rencontre une femme samaritaine et discute avec elle, et je crois sincèrement que Dieu a une parole pour chacun d'entre nous et un message particulier peut-être pour quelqu'un, quelques personnes en particulier, parce que c'est pas un hasard que tu sois là ce matin. Ce n'est pas un hasard que tu sois là ce matin. Et si tu veux passer à la prochaine étape dans ta relation avec Jésus, le connaître davantage, développer des liens encore plus intimes, plus profonds avec lui, tu es à la bonne place ce matin. Je veux te montrer comment approfondir ta relation avec Jésus. Et c'est le titre de mon message, comme on voit à l'écran. Vous allez voir, Jésus et la Samaritaine se retrouvent finalement autour d'un puits qui est profond. Et Jésus va utiliser ce contexte-là non seulement pour parler d'une source de vie spirituelle, mais aussi vous remarquerez qu'au fil de la conversation, Jésus amène toujours la Samaritaine dans une discussion de plus en plus profonde. Aujourd'hui, nous allons prendre exemple sur cette rencontre avec Jésus et la Samaritaine pour passer d'une relation superficielle à une relation plus profonde avec Jésus. Alors, lisons ensemble ce passage. Je vais d'abord lire le passage au complet, donc sans qu'il soit affiché à l'écran, donc focalisé sur ma voix, comme allez écouter le son de ma voix. Écoutez la lecture. Endormez-vous pas, s'il vous plaît, mais concentrez-vous puis essayez d'imaginer la scène. Ça nous aide à bien comprendre quand on s'imagine un peu la scène. Donc, c'est parti, on est dans Jean, et je vais faire quelques commentaires au fur et à mesure. Jean chapitre 4, versets 3 à 30, et moi, je suis dans la seconde 21 de ma traduction. Jésus quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il devait traverser la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie appelée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Et si vous voyez la petite carte que nous avons ici, juste pour se donner une idée, là, Jésus part de la Judée, il y a la Samarie, c'est des régions ici, Judée, Samarie, et donc il va jusqu'en Galilée en haut, et il doit traverser donc la Samarie et arrive à Sichar, une ville qui est située entre les deux. Okay? Ça va être bien important, ça va nous donner des indices pour comprendre mieux le texte par la suite. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire, il a soif. » En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit, « Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Pourquoi? Je vous explique un peu le contexte pour qu'on comprenne pourquoi est-ce que c'est écrit ça, que les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Dans les années 700 avant Jésus-Christ, les Assyriens sont venus occuper le territoire où ils étaient, le territoire de la Samarie, où vivaient des Israélites. Et les mariages entre ces étrangers, donc qui ne faisaient pas partie du peuple juif, les mariages entre les Assyriens et les Israélites ont donné naissance à un peuple métissé qu'on appelle les Samaritains. Et depuis, les autres Juifs perçoivent les Samaritains comme étant impurs, comme étant traîtres à la nation, finalement une lignée, une descendance qui n'est plus purement juive. Donc, c'est pour ça qu'ils n'ont pas de bonnes relations. Les Samaritains et les Juifs n'ont pas de relations ensemble. On continue au verset 10. Jésus lui répondit, « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu toi plus grand que notre ancêtre Jacob qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau, lui-même ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Toute personne qui boit de cette eau aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je n'aie plus à venir ici pour puiser. Va appeler ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. » La femme répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne, et vous dites-vous que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. » On se rappelle le contexte, rivalité entre les Juifs et les Samaritains. Ben les Samaritains voulaient quand même continuer d'offrir un culte à Dieu finalement. Donc ils se sont établis un autre lieu de culte sur le mont Garizim, la montagne qu'elle désigne, parce que en fait ils ne pouvaient plus se rendre au temple de Jérusalem. C'est pour ça qu'elle va avec cette question-là ici. Mais voici ce que Jésus répond. « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorerez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. » Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais qu'un Messie doit venir, celui que l'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Et ça termine comme ça. Là-dessus arrivèrent ses disciples, et ils étaient étonnés qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que lui demandes-tu ou pourquoi parles-tu avec elle? Alors la femme laissa sa cruche, s'en allant dans la ville, et dit aux habitants, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie? » Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Quel texte profond. Donc là, ça a été lu, on va tout le décortiquer ensemble, mais prions pour que Jésus, pour que l'Esprit de Christ vienne nous parler quand on va étudier ce texte. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Nous voulons ouvrir nos cœurs à ton esprit. Viens parler à nos cœurs, Seigneur. On a besoin que tu viennes sceller. Qu'est-ce qui est dit? C'est ta parole qui est prêchée, Seigneur, ce matin. Et on veut vraiment être avec un cœur ouvert pour cerner, te découvrir davantage, Jésus. Viens à notre rencontre. Tu es déjà là, en fait, alors on veut s'approcher, on veut faire le pas de plus vers toi. Amen. Alors qu'autour d'un puits, Jésus parle à la Samaritaine d'une source d'eau profonde. Comme je vous ai dit, il l'amène à avoir une discussion de plus en plus profonde avec elle. Et j'avais vraiment cette idée en tête d'un ascenseur. Ce matin, on va prendre l'ascenseur avec Jésus. Un ascenseur qui descend jusqu'au au stationnement souterrain, hein, les fameux stationnements souterrains. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va emprunter l'ascenseur avec Jésus et descendre justement, voir comment est-ce qu'il descend plus profond avec elle, avec le dialogue qu'il a avec elle. Premièrement, le premier niveau de profondeur que Jésus veut nous amener, c'est l'invitation. Jésus lance une invitation. Au début du récit, alors que les disciples sont partis chercher à manger, voici ce qui se passe au verset 6. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Et Jésus lui dit, donne-moi à boire. Jésus lance une invitation à la Samaritaine en lui demandant à boire. Jésus fait les premiers pas vers cette femme. Mais pour comprendre à quel point l'attitude de Jésus est vraiment remplie d'amour, j'aimerais porter votre attention sur trois éléments. Rappelez-vous que cette femme a eu 5 maris et vivait actuellement avec un homme qui était avec lequel elle n'était pas mariée. Et à cette époque, la pression sociale et morale était vraiment encore plus forte. Parce que maintenant, tout est accepté de toute façon, mais à l'époque, c'était vraiment pas ça. Donc, si on ne marchait pas selon la moralité de l'époque, on était complètement rejeté. Elle avait vraiment une mauvaise réputation. C'est donc pas un hasard que Jean mentionne le détail qui était midi. Quand il est allé puiser de l'eau. Parce qu'à l'époque, dans le désert, les femmes allaient chercher de l'eau le matin ou le soir, quand il faisait pas trop chaud. On peut supposer donc que la raison pour laquelle elle va puiser de l'eau à midi, c'est parce qu'en fait, c'est désert, il n'y a personne. Il n'y a personne pour la juger. Elle se trouve seule là-bas. Et rappelez-vous aussi la réaction des disciples quand ils retrouvent Jésus. Hein, on le lit vers la fin, qui parle avec elle. C'est parce que le fait qu'un homme s'adresse à une femme seule, c'était complètement inapproprié et contre-culturel. Et rappelez-vous finalement le contexte culturel que j'ai mentionné tout à l'heure. Les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains, qui étaient considérés comme impurs. Et même boire à même une cruche d'un Samaritain, c'est complètement impur, c'est complètement impensable. Mais pourtant, Jésus lance cette invitation. « Donne-moi à boire. » En s'adressant à elle, Jésus franchit toutes les barrières inimaginables. Barrières sociales, culturelles, morales, théologiques même. Parce qu'il veut une relation avec elle. Parce qu'il l'aime. Parce qu'il l'aime. Et Jésus te lance cette invitation à avoir une relation profonde avec lui, quel que soit ton passé, quelle que soit ton origine, tes erreurs, tes blessures, ton arrière-plan familial, ta situation économique, ta personnalité, ton titre. Ne laisse rien t'éloigner de ta relation avec Jésus et pensez même que ça pourrait être une entrave pour ta relation avec lui. Pas assez ci, pas assez ça, trop ci, trop ça, non. Jésus t'aime tel que tu es. Tu peux aller avec lui. Tu peux aller à lui tel que tu es. Et c'est lui qui fait les premiers pas. C'est lui qui t'invite, qui te lance l'invitation. Le premier niveau de profondeur où Jésus veut t'amener, c'est déjà de répondre à l'invitation. Et imagine, OK, que notre Samaritaine, elle est justement dans notre immeuble et elle est au numéro 3, à l'étage numéro 3, et elle veut descendre à l'étage supérieur. Et là, les portes sont grandes ouvertes avec Jésus de même à côté sur la petite barrière, là, puis il dit, « Allez, viens, donne-moi à boire. Entre, viens parler avec moi, approche-toi de moi. » Et là, dans le fond, elle peut choisir de dire d'aller chercher les escaliers ou finalement de rentrer dans l'ascenseur et de descendre avec Jésus. Et la Samaritaine, elle, qu'est-ce qu'elle a décidé de faire? Elle a décidé finalement de prendre les escaliers. Au début, elle prend les escaliers. Verset 9, la femme Samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Traduction, « Ah ouais, tu veux que je te donne à boire? Les Juifs sont pas censés pas avoir de relation avec les impurs samaritains. » Okay, c'est un peu ça le ton ici. Okay, il y a vraiment un certain sarcasme dans son attitude. Et donc, quand elle a vu Jésus, il l'a invité à entrer dans l'ascenseur, elle s'est dit, « Ben, tu sais quoi? Non, je vais prendre les escaliers. » Ah, mais Jésus, il est plus fin que ça. Okay? Qu'est-ce qu'elle a vu quand elle est descendue à l'étage inférieur? Elle voit encore une fois les portes de l'ascenseur grandes ouvertes avec Jésus qui lui relance cette tentative. Jésus, il est bon pour nous apprivoiser. Verset 10. Si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Encore une fois, elle prend les ascenseurs. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu, toi, plus grand que notre ancêtre Jacob qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau? » Traduction, premièrement, ça fait pas de sens ce que tu me dis, OK, parce que tu n'as rien pour puiser de l'eau. Et deuxièmement, tu te prends pour qui? Elle ne le connaît pas. Nous, on sait que c'est Jésus, fait qu'on y va avec des pincettes, mais elle, c'est un inconnu pour elle. Donc, tu te prends pour qui? Plus fin que notre ancêtre? Et donc là, elle prend finalement les escaliers, elle rentre pas dans l'ascenseur et elle se trouve au rez-de-chaussée. Mais le sarcasme, l'incompréhension, l'arrogance, l'orgueil, c'est tous en fait des mécanismes pour ne pas descendre plus profond avec Jésus, pour ne pas se laisser toucher par Dieu. Et c'est facile de trouver des excuses pour ne pas aller plus loin, en fait, avec lui. Ne pas répondre à l'invitation de Jésus. Mais ces mécanismes et ces excuses, c'est juste, en fait, une couche superficielle de quelque chose de plus profond. Dire que tu n'as pas besoin de Dieu, ça cache peut-être la peur d'être abandonné. Ne pas prendre Jésus au sérieux cache peut-être la peur d'être déçu. Ta relation superficielle avec lui cache peut-être des blessures que tu ne veux pas lui exposer. Ta carapace de personne fière cache peut-être des parties de ton cœur que tu ne veux pas abandonner à Jésus. Pourtant, c'est là, dans les profondeurs de ton cœur, de ton âme, de ton esprit, que Jésus veut aller pour te libérer, pour t'en libérer et pour te montrer à quel point il t'aime. Lisons maintenant la réponse de Jésus, okay, au rez-de-chaussée. Donc, encore une fois, il lui lance l'invitation. Jésus lui répondit, « Toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Et là, remarquez bien la réponse de la femme. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser. » Ici, OK? Elle embarque dans l'ascenseur. Ça y est, elle est intéressée, elle se montre intéressée par Jésus, par l'invitation de Jésus. Parce que maintenant, remarquez bien, c'est elle qui lui demande de l'eau. C'est elle qui lui demande de l'eau. Mais est-ce que vous avez remarqué que sa compréhension reste vraiment superficielle? OK? Elle pense que Jésus lui parle de l'eau physique, en fait. D'une eau, parce qu'elle dit qu'elle elle n'aura plus besoin après de venir puiser. C'est ça qui l'intéresse, en fait. Oui, elle accepte l'invitation de Jésus, et ça, c'est déjà bien, mais elle s'intéresse à Jésus plutôt parce qu'il a une solution physique, une eau magique, entre guillemets, qui pourrait répondre à ses besoins physiques et qui lui rendrait la vie plus facile. Et c'est possible que tu t'intéresses à Jésus pour des raisons similaires. Mais Jésus a plus que des miracles en réserve pour toi. Peut-être que tu pries pour une guérison physique ou intérieure depuis longtemps, mais Jésus a plus pour toi. Peut-être que tu pries pour qu'il pourvoie à tes besoins. Jésus, oui, veut pourvoir à tes besoins, mais il a plus pour toi encore. Jésus a plus que des bons enseignements, des bonnes valeurs. Il a plus parce que c'est lui-même qu'il s'offre. C'est lui la source d'eau vive qu'il nous offre. Des rencontres cœur à cœur avec lui. Une source qui donne la vie abondante jusque dans l'éternité. Et il veut t'offrir l'opportunité d'être en relation intime avec lui, cœur à cœur avec lui. Cette source est beaucoup plus précieuse que l'eau physique, en fait. Parce que l'être humain n'a pas besoin seulement de vivre physiquement, il a besoin aussi de vivre spirituellement. Et ça, ce n'est possible qu'en Jésus. Seulement possible en Jésus. Et même si la Samaritaine donc comprenait pas que Jésus parlait de réalité spirituelle et non physique, elle a quand même accepté l'invitation de Jésus. Donc, c'est assez bien en montrant de l'intérêt justement et en lui demandant à boire. Et donc, dans l'immeuble, la Samaritaine est au rez-de-chaussée quand elle a accepté d'entrer dans l'ascenseur avec Jésus. Mais c'est pas dans quoi elle s'est embarquée. Hein? Avouez que dans un ascenseur, tu partages un certain moment d'intimité avec un inconnu à côté de toi. Là, tu sais. T'as pas beaucoup de place, tu sens les odeurs de la personne, on espère que tout se passe bien à ce niveau-là, mais tu sais, t'es pris avec une personne jusqu'à temps que t'arrives à destination, quelle qu'elle soit. Et donc, Jésus, c'est comme s'il en profitait un peu, OK? Il s'est dit, ah, ça y est, elle est avec moi. Là, on commence à parler cœur à cœur, alors voici ce qui va se passer maintenant. Il va en profiter et il va l'amener à l'étage inférieur, au premier sous-sol. Et c'est là qu'on entre dans le deuxième niveau avec Jésus. Après avoir accepté l'invitation avec Jésus, on entre dans la phase de révélation. Révélation. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif. » Et là, regardez ce que Jésus va dire. « Va appeler ton mari. » Ah, OK, ouais, Jésus nous amène complètement ailleurs. « Va appeler ton mari. » On ne comprend même pas trop c'est quoi le rapport pour l'instant. Lui dit Jésus, et reviens ici. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Et Jésus lui dit, tu as fait bien de dire, je n'ai pas de mari, car tu as cinq maris, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité. C'est comme si Jésus disait, OK, tu veux de cette eau vive, va falloir qu'on aille un petit peu plus loin ensemble. OK? Attends un peu. Il l'amène au niveau de la révélation. Alors que Jésus lui révèle, elle est vraiment chanceuse, hein? Il lui révèle des réalités spirituelles vraiment précieuses. Il s'attend à ce qu'elle fasse de même aussi. Cette phase de révélation, elle n'est pas seulement à sens unique avec Jésus. Oui, Jésus se révèle, mais il s'attend à ce que tu te révèles à lui. Tu veux approfondir ta relation avec Jésus? Révèle-toi à lui. Dis-lui la vérité. Comment tu te sens réellement sans faux semblant? Jésus, de toute façon, il sait, mais il veut que tu lui dises. Donc, ça ne sert à rien de garder une carapace. À tous les jours, parle-lui en priant. Dieu veut que tu t'ouvres à lui, que tu lui parles à cœur ouvert, cœur à cœur, que tu lui donnes accès à tous tes projets, tes rêves, tes inquiétudes, tes soucis, tes souffrances, tes péchés, tes tentations, tes joies, tout, tout. Et si tu lui donnes accès, tu prends du temps d'intimité avec Jésus dans la prière, lui aussi va se révéler à toi et c'est ce qui est extraordinaire. Tu as peut-être déjà eu un ami à qui tu racontais, comme toute ta vie, là, beaucoup de détails quand même assez intimes. Oui, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais qui, lui, te confiait pas grand-chose, en fait. Okay? Tu te rends compte que cette personne-là, au fil du temps, ben, elle me partage pas grand-chose. Et très probablement, tu vas commencer à avoir de la difficulté à t'ouvrir toi aussi. Tu vas soit trouver ça un peu comme injuste, tu dis, ben là, moi, je me livre un peu à toi, mais toi, tu me donnes rien. Ou tu vas peut-être te trouver ça un peu, avoir de la méfiance. Coudonc, je peux-tu lui faire confiance? C'est donc bien étrange. Pourquoi? Parce que l'intimité, c'est là où deux personnes se révèlent la vérité. C'est ça l'intimité, en fait, tout simplement. La vérité sur qui ils sont, sur comment ils sont, etc. Tu veux apprendre à mieux connaître Jésus, passe du temps à lui parler. Passe du temps avec lui, à te faire connaître par lui et à apprendre à le connaître en lisant ta Bible et en priant. Dis-le à Jésus que tu te sens seul. Dis-le à Jésus que tu es déçu. Dis-le à Jésus que tu comprends pas et il va te répondre. Il va te répondre. C'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut, en fait, que tu te révèles à lui. Et remarquez la réaction de Jésus face à la Samaritaine. La Samaritaine, elle lui annonce rien de très glorieux, OK? Je ne sais pas si vous avez remarqué, elle lui annonce un passé d'échec et un présent de péché. Et Jésus lui dit pas, franchement, reprends-toi, t'as pas d'allure. Hey, je faisais un effort pour parler à une femme, une Samaritaine en plus, mais là, en plus, t'es adultère, finalement, je veux pas te parler, pas du tout. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tu as bien fait de dire. Oh, wow! Tu as bien fait de dire. Jésus ne la juge pas, il ne la condamne pas. Quelle grâce, quel amour! Est-ce qu'on peut juste reconnaître l'amour et la grâce de Jésus? C'est incroyable. Quand tu dis la vérité à Jésus, il ne te condamne pas, il t'accueille. Ouvre-lui ton cœur, même quand ce que tu as à lui dire n'est pas très glorieux. Ouvre-lui ton cœur. Et dans ce moment cœur à cœur, lui aussi va se révéler à toi. Te dire exactement ce dont tu as besoin pour reprendre le bon chemin, pour t'encourager, pour te relever, pour faire quoi que ce soit dont tu as besoin. Ne vis pas ta souffrance tout seul, dis-le à Jésus dans une conversation cœur à cœur. Et comme la Samaritaine, tu peux aussi faire part à Jésus non seulement de tes péchés, de tes besoins, mais aussi de tes doutes et tes questionnements. Au verset 19, elle dit, « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. » Et là, c'est comme si elle en profitait d'avoir un prophète avec elle. Elle lui fait assez confiance. C'est comme, « OK, il dit des choses vraies sur moi. Wow! J'ai quelqu'un de confiance devant moi, donc je vais lui apporter une question théologique. » Voilà, pourquoi pas. Verset 20, « Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne et vous, vous dites que l'endroit où il faut adorer est Jérusalem. » Donc, on voit, elle bifurque tout de suite vers une question théologique, dont j'ai expliqué le contexte tantôt. En d'autres termes, elle va dire, Jésus, c'est qui a raison? Hein? Tu sais, quand on va arriver devant Jésus, On va y poser des questions. Quelle conversation on va avoir avec lui? Tu as le droit de rester au niveau théologique. Je sais pas si c'est ça, à voir si c'est la bonne chose à faire. C'est qui finalement qui avait raison? Hein? Pas sûr, moi, que c'est ça que je veux dire en premier à Jésus quand je vais le rencontrer. Mais c'est ça un peu qu'elle fait. Mais n'aie pas peur de dire à Jésus la vérité, de lui faire part de tes doutes, de tes questionnements. N'aie pas peur de le faire. Et il va répondre. Il va répondre. Lui, il veut que tu sois authentique. Mais attention par contre, parce que pour certaines personnes, ça peut aussi devenir un mécanisme pour rester à ce niveau-là. OK? Donc, on est descendu quand même plus profondément, mais hop, ça peut s'arrêter à n'importe quel moment. Ça peut être un mécanisme pour s'arrêter là, pour pas se laisser toucher par Dieu personnellement, en restant juste au niveau intellectuel. Bifurquer vers des débats ou des questions de deuxième plan, ça peut être un moyen de ne pas aller plus profond avec Jésus. Ces questions-là sont merveilleuses. Il faut aller avec à Jésus avec tous ces questionnements-là, ces doutes-là. Mais il ne faut pas perdre le centre. Certains débats, des questions secondaires ne doivent pas remplacer ta relation avec Dieu. Et j'ai l'impression que parfois, nos requêtes, nos prières prennent des fois le centre de Jésus, en fait, de nos moments avec Jésus. Apporte tes questions à Jésus, tes doutes aussi, mais ne les laisse pas te déconcentrer. OK, exemple, tu prends un café avec un ami, puis tu es dans une passe vraiment difficile. Et là, tu prends un café avec un ami, tu vas pas prendre ton café puis dire « Wow, c'est dur, je souffre, je suis brûlée, je souffre, c'est dur, c'est vraiment dur. En tout cas, je bois mon café, c'est bien le fun, mais je souffre, c'est dur, c'est vraiment difficile. J'aimerais ça avoir de l'aide. Aide-moi donc, s'il te plaît. » Est-ce que tu vas passer une heure du temps à faire ça? Mais non. Ben, en tout cas, si oui, viens me voir. On va prier pour toi. Je vais t'aider à avoir des relations peut-être plus intéressantes. Mais non, on fait pas ça. Parce que le café qu'on prend avec la personne, si on est là, c'est parce que ça nous fait du bien. C'est parce que ça nous renforce d'avoir une relation avec la personne qui est devant nous. Donc, on va, oui, aborder les choses qui nous pèsent. Mais dans un dialogue, l'autre personne va répondre. Elle va elle-même nous partager des choses. Ça va nous aider à changer nos idées. Amen. On aime ça, changer les idées quand ça va pas bien. C'est important aussi. Alors, ne fais pas de tes requêtes le centre de ta relation avec Jésus. Ta souffrance, tes doutes, ce que tu vis, ne fais pas le centre de ta relation avec Jésus. Apporte-les à lui, mais au centre de la table. OK? Jésus, il te regarde. Non, là, ça marche pas, mon illustration. Pas au centre, à côté, sur une autre chaise. Mais regarde Jésus face à face. Apporte-lui. Sois en relation avec lui. Et des fois, juste le fait de prendre du temps, pas des fois, le fait de prendre du temps avec Jésus te relève pour ces situations-là, carrément. Et donc, après la question plus théologique de la Samaritaine, c'est là que Jésus la ramène encore une fois plus profond au niveau spirituel. OK, il part encore du physique, du plus superficiel, les couches en haut, là. Quel est le lieu, donc le lieu physique où on doit adorer? Pour parler, finalement, il l'amène à parler d'une réalité spirituelle plus profonde. Verset 21, « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. » OK, ça n'a pas rapport avec le lieu physique. « Vous adorerez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient et elle est déjà là où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherchent le Père. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Il se révèle encore plus à elle, c'est fou. En lui disant maintenant que c'est plus le lieu pour adorer qui importe, parce qu'il parle en fait d'un royaume spirituel qui est ouvert à n'importe qui. Il dit c'est même plus les Juifs, les Samaritains, etc. Le salut est offert à n'importe qui, quel que soit ton arrière-plan. Et là, la femme, regardez un petit peu, OK? C'est comme si elle trouvait que, en tant que prophète, que seulement prophète pour elle, Jésus exagérait un petit peu, OK? Parce qu'elle lui répond ceci. « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. » OK? En d'autres termes, wow, le prophète, OK? Moi, j'attends le Messie et lui, il va nous révéler toutes ces affaires-là. OK? C'est un peu ça qu'elle veut dire ici. Mais c'est là que Jésus lui fait l'ultime révélation au verset 26. Là, on est au dernier sous-sol, OK? terminus, dernier sous-sol, je le suis, moi qui te parle. Je suis ce Messie, va dire Jésus. Le niveau de révélation augmente aussi avec la profondeur. Au début, Jésus lui révèle des vérités un peu abstraites pour finalement lui révéler son identité, qui il est. Cette femme a été la première à qui Jésus s'est révélé en tant que Messie, une femme samaritaine adultère. Imagines-tu le degré d'intimité que tu peux développer avec Jésus si tu prends le temps de le faire, de passer du temps dans la présence de Dieu? Imagines-tu la profondeur, les possibilités de révélation sur qui il est et aussi sur qui tu es? Si tu le suis dans des conversations cœur à cœur, tous les jours par la prière, est-ce qu'il y en a qui ont soif de cette relation avec Jésus? Est-ce qu'il y en a qui ont soif? Amen. De cette source de vie. Et là, on est au dernier point. J'arrive bientôt à la conclusion. On passe de l'invitation, Jésus nous fait cette invitation. On passe aux révélations pour arriver à une relation. Une relation. La troisième phase où Jésus veut t'amener, c'est une relation. Les révélations précédentes ont mené à une relation parce qu'une relation, c'est construit autour d'une intimité. Et l'intimité, c'est là où deux personnes se révèlent la vérité. Jésus s'est révélé à la Samaritaine et elle s'est révélée à lui. Ton degré d'intimité avec Jésus va être lié au degré de révélation que tu lui fais et au temps que tu lui laisses pour se révéler à toi. Et après que Jésus lui ait révélé son identité, regardez bien sa réaction, OK? Elle va tout lâcher. Ce qu'elle faisait, elle est en train de puiser de l'eau et tout d'un coup, elle lâche tout et elle s'en va, probablement en courant, au village pour leur annoncer ceci. Avez-vous vu sa réaction qui est complètement différente? C'est complètement différente qu'au début. Il s'est passé quelque chose dans sa vie parce qu'au début, elle voulait se cacher pour puiser de l'eau et là, elle court au village. Annoncer l'Évangile. Incroyable. Verset 29. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie? Et c'est tellement surprenant. Moi, ça me surprend à chaque fois que je lis ce passage-là. Ce qu'elle retient de sa conversation avec Jésus, ce qui la touche vraiment, c'est qu'il la connaissait. Pourtant, ce qu'elle lui a dit, c'est des choses qui ne sont pas glorieuses. Okay? Elle n'avait pas une vie reluisante. Pourtant, c'est ce qui l'a touchée. Comment est-ce qu'elle peut être touchée par le fait que Jésus savait qu'elle avait cinq maris, qu'elle avait eu cinq maris et qu'elle vivait dans l'adultère? Wow! OK, ben, OK, elle aurait peut-être été censée plutôt se sentir honteuse, mais non, parce que Jésus l'aimait. Jésus l'aimait. Nathanaël aussi, un disciple de Jésus, c'est comme ça aussi qu'il a été touché par Jésus, qui a dit, quand tu étais sous le figuier, je te voyais. Ah, tu es le Messie. Il se savait connu de lui. Et Tim Keller, un auteur et théologien, a écrit ceci dans un de ses livres. Ce passage-là est juste magnifique. Être aimé sans être connu est réconfortant, mais superficiel. Être connu sans être aimé constitue notre plus grande crainte. Mais être pleinement connu et véritablement aimé, c'est ce dont nous avons besoin par-dessus tout. Et c'est ce que Dieu nous offre. S'il y a une vérité que je veux que tu retiennes ce matin, c'est que Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime tel que tu es. Et il te connaît parfaitement, toutes tes forces, mais aussi tous tes pires défauts. Oh là là, oh oui, oh oui. Toutes tes blessures, tout ton passé, toute ton enfance. Il te voyait. Toutes tes erreurs, tes failles, les failles de tes parents, de tes relations, de tout ce que tu as vécu. Et pourtant, il a choisi de mourir à la croix pour toi en toute connaissance de cause. Tu n'as pas besoin d'une plus grande preuve d'amour que ça. C'est juste incroyable. Et non seulement il te connaît, non seulement il t'aime, mais en plus, il te comprend. Mon verset préféré dans tout ce passage, qu'est-ce que c'est? Une idée? Hein? Tu as bien fait de dire, non, mon verset préféré, Jean 4, 6. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. Ah, Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. Pourquoi est-ce que ce verset-là, c'est mon préféré? Parce que ça veut dire que Jésus nous comprend. Jésus est un être humain. Jésus est glorieux, on l'a chanté ce matin, le nom le plus glorieux, mais c'est aussi celui qui est fatigué et qui t'attend au bord du puits. Wow! Wow! Jésus est fatigué, donc il te comprend parfaitement. Il a vécu les mêmes tentations que toi, les mêmes souffrances que toi, et pire même. Il te comprend, il t'aime. Il te connaît, il t'aime et il te comprend. Moi, je trouve que c'est un beau trio. Hein? Amen! En conclusion, j'ai invité les musiciens à venir me rejoindre. Le début de la vie chrétienne, c'est une rencontre personnelle avec Jésus. Verset 39, c'est la suite du passage qu'on n'a pas lu tout à l'heure. Donc, la Samaritaine s'en va au village et là, elle dit « Ah, il me dit tout ce que j'ai fait, c'est le Messie. » Et là, ça dit ceci. « Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause des paroles de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Un bien plus grand nombre crurent à cause des paroles de Jésus. Et il disait à la femme « Ce n'est plus seulement à cause de ce que tu as dit que nous croyons. » car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Messie, le Sauveur du monde. Tu ne peux pas choisir Jésus par procuration. Parce que ta femme ou ton mari va à l'église, parce que ça fait des années que tu viens à l'église. Parfois, certaines personnes restent à l'église d'année en année, mais n'ont jamais vécu cette rencontre avec Jésus, ne sont pas nés de nouveau, ça arrive. C'est pas non plus parce que tu as déjà été à l'église pendant que tu étais jeune. La nouvelle naissance spirituelle, le moment où tu passes de la mort à la vie spirituellement, où tu deviens un enfant de Dieu, c'est lorsque tu vis une expérience personnelle avec Jésus. Par la prière en lui disant « Oui, Jésus, j'ai entendu moi-même et je sais que tu es le Messie, le Sauveur du monde, celui qui pardonne mes péchés, celui qui me libère du mal, celui qui me donne une espérance qu'après la mort, je vais vivre pour l'éternité. » Tu peux faire cette prière-là dans ton cœur et devenir un enfant de Dieu ce matin. Et si c'est le cas, viens nous voir à l'espace Bienvenue. On veut prier avec toi, on veut t'accompagner parce que une rencontre personnelle avec Christ, c'est non seulement le début de la vie chrétienne, mais c'est tout le restant de ta vie. Tout le restant de ta vie. Parce que tu vas devoir encore et encore aller à ce puits avec Jésus face à face. Si ça peut t'aider, imagine Jésus en face de toi avec un puits à tous les jours ou un ascenseur où tu es dans un moment d'intimité avec lui à tous les jours. Jésus est une nourriture pour notre âme. C'est lui la source. C'est lui la source de vie. C'est lui la source de vie. Si on s'éloigne de cette source, on n'a plus la vie. On meurt à petit feu. Il faut être près de la source, demeurer. La lecture de la parole, la prière cœur à cœur avec Jésus, la louange, tout le temps que tu passes dans la présence de Dieu, c'est une nourriture pour ton âme qui étanche ta soif. Parce qu'on a besoin de vivre spirituellement. Et ce passage le prouve. C'est fou, parce que je sais pas si vous avez remarqué, le début commence avec Jésus fatigué du voyage, qui a soif et faim. Et tout au long de la conversation, ben finalement, il ne boit toujours pas d'eau, OK? Et les disciples, quand ils reviennent vers lui, au verset 31, voici ce qu'ils vont dire. Ils vont dire, « Maître, mange! Jésus, tu vas défaillir, là. Allez, il faut que tu manges, ça n'a pas d'allure. » Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? » Ils font comme la Samaritaine. Ils pensent encore que Jésus parle de quelque chose de physique. Mais Jésus va dire, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Sa nourriture, c'est d'accomplir l'œuvre de son Père. Jésus a été rassasié. Il n'a pas mangé physiquement, mais il a été rassasié par une nourriture spirituelle en obéissant à Dieu. Si Jésus devait se nourrir de sa relation avec le Père, à quel point nous aussi, nous en avons désespérément besoin. Jésus allait constamment auprès du Père pour renouveler ses forces, pour renouveler tout ce dont il avait besoin. Jésus veut nous rappeler que nos besoins ne sont pas seulement physiques. Nous devons vivre spirituellement. Et ça, ça se fait auprès de Jésus, cette source d'eau à laquelle on doit aller encore et encore et qui va jaillir jusque dans la vie éternelle. Est-ce qu'il y en a qui ont soif de Jésus ce matin? Levez la main ceux qui ont soif de Jésus ce matin. Plus de lui, plus de lui. On peut aller plus profondément. Il n'en tient qu'à nous, Jésus. Il est là, il nous accueille, il veut, il nous lance l'invitation. Alors, acceptons-la, les bras grands ouverts. Je vais prier, prions ensemble. Levez-vous, levons-nous ensemble. On va chanter aussi l'amour de Jésus. Mais avant, je veux prier. Seigneur, je veux d'abord te prier pour ceux qui n'ont jamais fait cette première rencontre personnelle avec toi. Seigneur, par ton esprit, viens parler à leur cœur et viens leur montrer qu'ils n'ont rien à craindre, Seigneur. Viens leur montrer que tu les aimes de tout ton cœur, Seigneur Jésus. Je te prie pour les gens qui sont tiraillés encore, Seigneur, qu'ils puissent dire « Non, je crois que tu es le Messie, celui qui sauve. Tu es celui dont j'ai besoin, Seigneur. » Viens par ton esprit parler au cœur, Seigneur. Je veux te prier aussi, Seigneur, pour... tous ceux qui veulent faire le pas de plus, Seigneur, qu'on puisse vivre des moments particuliers dans ta présence cet été, qu'on puisse s'approcher de toi, de qui tu es vraiment, qu'on puisse vraiment développer une intimité incroyable en se révélant, en prenant le temps pour que tu puisses te révéler à nous aussi, Seigneur. On veut prendre ce temps, prendre ces cafés avec toi, Seigneur, à tous les jours. Vois le cœur de chaque personne, que tu puisses aussi enlever toutes les entraves possibles pour une relation plus cœur à cœur, que tu puisses sonder nos cœurs, Jésus, et nous montrer qu'est-ce qui doit être épuré à l'intérieur, des blessures, des choses qu'on ne veut pas te montrer, Seigneur, non, fait qu'on puisse avoir confiance en toi. Seigneur, montre-nous à quel point tu nous aimes pour qu'on puisse s'ouvrir entièrement à toi, Seigneur, notre esprit, notre âme, notre cœur, Seigneur. Ah, viens faire ton œuvre ce matin.